Ce matin, j'ai perdu 30 ans, ça y est, je suis retourné à l'université. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pire reste à venir, la matinale des radios HDR et des antennes de Principe Actif. Ce matin, je vous l'ai dit, je suis retourné à l'université, je suis retourné étudiant. C'est pas moins de 7 étudiants qui seront face à moi ce matin. C'est Amaury, Émile, Jeanne, Nicolas, Nérel, Lali, Eva. Et puis, ils sont chaperonnés par un enseignant-chercheur qui est juste là avec nous. C'est Julien. Pourquoi est-ce qu'il y aura autant d'étudiants ce matin sur l'antenne, sur les antennes de Principe Actif et de la radio HDR? Eh bien, tout simplement parce que c'est la crème de la crème qui vient aujourd'hui. Ce sont des gagnants. 3 prix ont été remportés par l'IUT d'Evreux en packaging, en biologie et en mesure physique. Mais ça, nous aurons l'occasion d'y revenir durant cette émission. Pour m'accompagner au micro ce matin, c'est Stella. Bah ouais, nous aussi, on a des étudiants. Il n'y a pas de raison qu'on les fasse tous en import. On les a aussi dans les studios, nos étudiants. C'est Stella qui croisera le micro avec moi ce matin. Du bon son, de la bonne humeur, du répondeur. Enfin voilà, vous connaissez la recette d'une matinale chez Radio HDR et Principe Actif.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principe Actif.
Et je vous l'ai dit, nous sommes avec 7 étudiants de l'IUT d'Evreux. Ils sont en BUT génie biologique avec des spécialités. Ils vont nous en parler dans un instant. Et puis, elles sont, parce que pour le coup, ce sont 3 étudiantes en BUT packaging également. On n'aura pas réussi à avoir les mesures physiques, mais on s'était dit quand même 7 dans les studios. On était bien déjà. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour.
Ben voilà, oh c'est une petite voix timide là, non allez on va se faire la voix du matin. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour.
Ah ben voilà, là c'est, il y a cet étudiant dans le studio. Ils sont avec nous ce matin, on va découvrir un petit peu, peut-être on fait un tour de table comme ça. Et puis donc les 4 en génie biologique, à savoir Nicolas, Amaury, Émile et Jeanne. En quelques mots, qui êtes-vous? Ah bah ça y est, je viens de jeter un froid. Qui êtes-vous, du coup, en quelques mots? Bien dans les micros, du coup, s'il vous plaît, parce que du coup, tout le monde s'est reculé, mais mettez-vous dans
le
micro.
On a un groupe d'étudiants, donc, comme vous l'avez dit, en génie biologique. Et donc, nous avons gagné un concours qui était, donc, en fait, Innovalim. Et donc, voilà, on est un groupe d'amis aussi, d'abord. Et voilà.
On fait le tour, on a également Amaury qui est avec nous. Amaury, la spécialité, toi, on était sur les spécialités aussi. Hein. Oui. Qu'est-ce que la spécialité de ce génie biologique?
Nous, on est en spécialité sciences de l'aliment et biotechnologie, donc plus basé sur tout ce qui est agroalimentaire, plus que médicaments, tout ça, quoi.
D'accord, on poursuit, on a également Émile qui est avec nous. Émile, c'est quand on parle de génie biologique, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive en génie biologique?
On arrive en génie biologique quand on choisit une voie principalement dans la science de l'aliment et dans l'aliment du coup.
Et c'est vraiment dans l'aliment là en fait que vous êtes?
Alors pour notre filière, un petit peu plus dans l'aliment, mais ça concerne aussi la pharmacopée, la cosméto et autres produits tels que la microbiologie.
D'accord, on reviendra sur tous ces termes parce qu'ils sont pas forcément évidents pour nous. Et puis nous avons Jeanne avec nous. Quand on dit l'alimentaire, on est loin de la cuisine ou on est proche de la cuisine?
On est plutôt proche honnêtement.
Est-ce qu'on cuisine par exemple?
Oui, c'est vrai. On a des cours de cuisine, oui.
D'accord. Des spécialités pour toi, Jeanne?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout. Non, d'accord, ok, c'est pas la bonne matière. D'accord. Et puis, je disais, on a également le BUT Packaging avec RL, Lali et Eva. RL, quand on parle de packaging, c'est ce qui nous entoure dans toute notre vie, c'est ça, c'est, on est entouré de packaging, on pourrait le dire.
En fait, on se rend pas compte, mais notre vie, elle est entourée d'emballage. Donc, le packaging, c'est bien l'emballage, quand on parle en français. Et on en trouve vraiment partout, dans tous les domaines.
Lali, c'est une vocation, le packaging. Comment ça se passe? C'est à force de faire des cadeaux à Noël, tu t'es dit, je vais faire du packaging?
Bah, un peu pour tout le monde, le packaging, c'est trouvé un peu au hasard. Enfin,
C'est pas une vocation.
C'est pas la première chose quand on pense aux études sup. On pense pas forcément tout de suite à packaging. Mais c'est quand on découvre vraiment ce que c'est qu'on s'y intéresse vraiment.
Et Eva, est-ce que c'est quand même quelque chose qui se rapproche aussi de la science finalement? Quand on parle packaging, on pourrait penser commerce, mais est-ce que ça se rapporte aussi un petit peu à la science finalement, cette notion de packaging?
Donc nous, en packaging, on a beaucoup de cours sur les matériaux pour travailler notamment sur les interactions entre les emballages et ce qu'il contient, parce que notamment dans l'alimentaire, il faut limiter un maximum les interactions et les migrations de molécules.
Ok, je crois qu'on va vraiment discuter parce que là, tout ça, c'est vraiment, on sent le jargon technique. Et vous avez raison parce que finalement, ce sont des matières techniques. Et nous aurons justement l'heure devant nous pour en discuter. Nous sommes donc avec les étudiants de l'IUT d'Évreux. On parlera des prix un petit peu plus tard parce que quand même là, on n'a que des primés en face de nous. J'imagine que les primés sont plus nombreux. Il y a des collègues à vous qui sont pas venus ce matin, c'est ça? Ou il y a tous les primés qui sont là?
Non, on a nos amis du coup de mesures physiques qui ne sont pas présents pour parler de leur prix.
D'accord, mais sinon sur Génie Bio, ceux qui ont remporté les prix, c'est que vous, c'est ça, les quatre qui sont là?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et puis en packaging, c'est que vous trois?
Oui.
Ah ouais, c'est vraiment la crème de la crème qu'on a aujourd'hui. Bon, ben on évoquera également les mesures physiques qui n'ont pas pu être là ce matin. Pour commencer cette émission, son patate, hein, comme d'habitude. Avec le titre Little Food. Non, je vais pas y arriver. Hein. Little Foot, Big Foot.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principative.
Alors écoute.
99.1
HDR.
102.4 FM.
Radio Principative.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Ouais, salut la matinale.
Hi, Principative.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like the mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Bonjour à toute l'équipe de Principe Actif, c'est Fred des Maisons de Navarre. Je voulais vous annoncer la fête de quartier qui aura lieu samedi 1er juin, donc la semaine prochaine, samedi 1er juin. Et il y aura une foire à tout, bien sûr, en plus de la fête de quartier. Et donc, les inscriptions, c'est en ce moment. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas. Fête de quartier de Navarre et foire à tout de Navarre, c'est samedi 1er juin. Vous pouvez appeler au 09 72 601 602, 09 72 601 602. Salut.
Eh ben merci Frédéric de nous rappeler cet événement. C'est donc sur la place Pouget à Navarre. C'est la place de Navarre en fait tout simplement. Et le rendez-vous est pris pour ce samedi. Tiens, dans les autres rendez-vous aussi, c'était aujourd'hui. Hein, si vous avez encore des impôts à déclarer, à vérifier, à valider ou quoi que ce soit, c'est aujourd'hui. Non mais rigolez. Ah ouais, mais j'ai les étudiants en face qui font. Mais vous verrez que vous aussi vous avez un délai aujourd'hui pour ceux qui se réinscrivent l'année prochaine. Mais ça c'est Stella qui nous en parlera tout à l'heure. Il n'y a pas que ceux qui déclarent les impôts qui ont des délais. Il y a ceux qui veulent un hébergement l'année prochaine. Non, vous avez tous demandé votre hébergement l'année prochaine ou pas?
Non.
Ah non? Chez les parents encore. Alors. Ah, chez les parents encore. Ah bah demande quand même l'hébergement pour l'année prochaine, on ne sait jamais. Je suis donc avec les étudiants du BUT Génie Biologique et puis les étudiants du BUT Packaging de l'IUT d'Evreux. Ils ont remporté des prix récemment. On a les lauréats, c'est ça, on dit comme ça, hein, c'est ça, les lauréats en face de nous pour échanger un petit peu. Moi, je voulais revenir sur les génies biologiques, qu'on parle un petit peu de ce prix. Rapprochez-vous bien des micros et je voudrais en savoir un petit peu plus en quoi consistait ce concours et comment finalement on gagne le prix. C'était quoi ce concours en génie biologique?
Ce concours consistait en fait à créer un aliment innovant aux couleurs de la Normandie. Et donc nous en fait, notre produit, si je peux en parler tout de suite.
Ouais, vas-y, voilà. Vas-y.
C'était en fait, on est parti à partir donc du classique trou normand et on l'a revisité. On a ajouté une nouvelle structure en fait sous forme d'une gaufrette autour du sorbet du classique trou normand. Sorbet qu'on a incorporé en fait de morceaux de pommes caramélisés et imprégné de calvados. Donc une stupeur givrée, donc c'est le nom de notre produit, le nom de notre innovation qui nous a permis d'être premier, d'emporter le lauréat du premier prix d'innovation. Donc stupeur givrée, c'est une petite bouchée, donc comme un trou normand en bouchée de 3 cm de diamètre, à un taux d'alcool approximatif de 5%.
D'accord, mais on est presque dans la cuisine, effectivement, tout à l'heure Jeanne nous disait ça ressemble à de la cuisine. Qu'est-ce qui fait, quelle est la différence entre faire du génie biologique et puis finalement être chef et avoir fait une création en cuisine de chef cuisinier? Quelle est la différence finalement, parce qu'elle est assez fine quand on est sur une création de ce type?
Il existe plusieurs différences, mais nous principalement on apprend tous les procédés, donc c'est-à-dire toutes les différentes étapes. On va pas simplement mélanger des ingrédients, obtenir un produit et dire ça c'est notre produit, il y a ça comme liste d'ingrédients. Nous, c'est-à-dire qu'on va partir d'une liste de matières premières, c'est-à-dire tous les matériaux avec lesquels on va fabriquer notre produit. Et ensuite, va en découler un grand nombre de tâches, donc c'est-à-dire d'actions à réaliser pour obtenir notre produit. On doit aussi remplir un cahier des charges avec différentes contraintes. Donc là, Nicolas s'en parlait, mais il y avait des choses imposées. Donc c'est-à-dire que notre produit devait être durable, local. Et du coup, c'est-à-dire qu'on devait utiliser des matières premières venant de producteurs de Normandie. Et durable, du coup, il ne devait pas être nocif pour l'environnement.
Sur une création de ce type, c'est ce qu'on appelle les cuisines. Quand on parle de cuisine moléculaire, des choses comme ça, on est dans le génie biologique ou pas du tout? C'est moi qui craque. Vous avez le droit de le dire que je craque, hein, vous inquiétez pas. Non, c'est pas dedans. Non. Des fois, parce que c'est dans les procédés, là, tu évoquais, Émile, les procédés qui avaient un process de fabrication et tout. J'ai la sensation que des fois aussi, dans ce qu'on appellerait la cuisine moléculaire, des trucs comme ça, on retrouve un peu la même chose. Non, je vous vois perplexe quand je dis ça. Là, je crois que j'ai lâché tout le monde, là, c'est ça?
Bah, doit forcément y avoir un lien, parce qu'il y a quand même des procédés à respecter et tout ça, mais on ne sait pas vraiment si ça rentre vraiment...
Si ça rentre dedans ou pas, quoi. D'accord. Comment on part, parce qu'il y a la partie technique, bien entendu, le génie biologique, comment on part sur une aventure de ce type en création culinaire? Comment on arrive à se dire au bout d'un moment, vas-y, on va faire, hein, comment vous avez appelé ça?
Stupeur.
Stupeur givrée. Comment on fait une stupeur givrée, ou un stupeur givrée, d'ailleurs, c'est masculin?
Une.
Comment on fait une stupeur givrée?
En fait, de base, on n'était même pas parti là-dessus. Hein. On était parti, on savait juste qu'on devait créer un produit à la fin qui respectait un cahier des charges. On était parti sur un truc complètement aléatoire qui ressemblait pas à ça. Et après, je sais pas, on s'est dit, qu'on était normand, donc on allait faire un truc avec le tout normand.
C'est ça, c'est sûr, parce que il y avait du calva dedans. Ça, je me suis dit, c'est pas sur une soirée étudiante que ça, l'idée a germé à la fin.
Alors, il y a moyen.
Ah, il y a moyen. D'accord.
Il y a moyen parce que de base, on était vraiment sur une sorte de boule de glace de melon avec du jambon.
D'accord.
Et puis après, on s'est dit, on aime bien l'alcool, on va en rajouter.
On va rajouter puis, du melon.
Non. De l'alcool.
De l'alcool.
Et du coup, on est parti sur une histoire de trou normand.
D'accord. Ouais, enfin, le melon et le jambon, c'était moins local, enfin moins régional comme comme idée serait quand on part sur le trou
bon
normand.
Déjà.
Et puis moins pour tes chats. Vous en avez ramené ce matin ou pas?
Non, c'est compliqué vu que c'est un produit surgelé.
Mais on a un congélateur ici.
Oui, mais nous, l'IUT, il est fermé ce matin à cette heure-là, donc.
Et vous en fabriquez pas à la maison. Faut, alors du coup, ouais, on peut en fabriquer à la maison, ça, ou faut vraiment du matériel type du gros matériel d'IUT.
Ça se fait à la maison, mais c'est très long parce qu'il y a plusieurs étapes et chaque étape est assez longue quand même.
En matériaux, je dirais qu'il faut simplement un moule en silicone, un four et peut-être une sorbetière.
D'accord. On peut parler du procédé, du coup, comment, enfin la recette, à moins qu'elle soit secrète comme sur des. Ouais, des
tout est protégé, donc il y a pas.
Tout
de
est protégé. Ah oui, parce que du coup, c'est déposé et protégé.
Oui, on a déposé dans l'op solo, donc l'idée est protégée et réservée à nous.
D'accord. C'est un, mais, oh, où est-ce qu'on peut en goûter de ce truc? Parce que maintenant que vous m'avez parlé quand même de cette stupeur givrée, moi ça me donne envie de la goûter. Où est-ce que ça se goûte?
Bah, donc, pour l'instant nulle part, parce qu'on peut pas encore en vendre ou on peut pas le commercialiser. Mais c'est dans nos projets de faire évoluer la stupeur givrée et de le commercialiser. Mais actuellement c'est compliqué.
Alors la stupeur givrée, en quelques mots pour qu'on comprenne comment elle se prépare, il y a quoi comme ingrédients, ça du calva on avait compris, mais ça gèle pas d'ailleurs le calva quand c'est givré, si? C'est un des problèmes, c'est ça, je vois mourir.
Ça congèle pas forcément, on essaie d'en mettre une très petite dose directement dans notre produit et après on peut en ajouter une surcouche sur notre produit tout à la fin, vraiment juste avant de le déguster.
Ça faisait partie des problématiques, ça, de faire un truc alcoolisé givré?
Justement, c'était une des problématiques et on s'est rendu compte que mettre trop de calva, c'était un gros problème parce que ça congelait pas du tout.
Bah, c'est même un antigel, quoi, l'alcool, hein, tout simplement. Donc ça, c'était une des problématiques. Vous l'avez découvert ou vous le saviez?
Non, on le savait, mais on a quand même réussi à régler le problème.
D'accord. C'est ça, quand on fait génie biologique, c'est avoir un problème et le résoudre. C'est un peu ça l'idée?
C'est ça. Bah là, on a fait plusieurs recettes. Le temps qu'on a passé à juste élaborer le projet, c'était assez long. Mais au final, on a réussi à faire un projet qui tient la route, donc ça va.
Quand on bosse dans un IUT, qu'on se prépare à un concours, ça prend combien de temps de déterminer le cahier des charges, le projet, la recette, la réalisation, la retouche, là, vous voyez. Enfin, j'imagine que c'est ça, hein, les étapes, non? Il y en a peut-être certaines que j'oublie sûrement, mais.
Après, ça dépend de l'implication dans le projet, en fait.
Alors pour vous?
Pour nous, on a été mis au courant du concours début d'année, donc peut-être septembre. On a vraiment pris l'idée en novembre, décembre peut-être. Et de janvier à avril, on a travaillé, mais le soir, quand on pouvait, non-stop. On travaillait donc pendant 4 mois. On a fait un cahier des charges, ça nous a pris un certain temps aussi. Puis vraiment, comme a dit Amaury, on a fait plusieurs recettes, par exemple de glace, de gaufrette, parce que c'était jamais assez bon, c'était jamais assez bien. Donc du coup, on a vraiment travaillé, oui, 4 mois, je dirais quand même.
4 mois pour élaborer. Face à vous, sur le concours, il y avait quoi comme type de projet, qu'on se rende un petit peu compte?
Alors, en termes de projets, il y en avait énormément. On était sur 26 projets. Il pouvait y avoir des sushis tout simplement revisités, des ramen, du coup, des pâtes qu'on pouvait réchauffer juste avec de l'eau et du coup, qui étaient mangeables.
Ça existe déjà quand même.
Ça existe déjà. Après, c'était je sais plus quelle était la partie innovante dans ce
produit. Il réutilisait les épluchures d'oignons, tout ça, qu'ils remettaient dans la recette. Donc, il n'y avait aucune perte pour leur produit.
Donc voilà, après il y avait des sauces, il y avait des bretzels à goût à la pomme, je crois. Il y avait une glace à la...
Glace frite.
Une glace au piment qui avait été frite. Enfin, il y avait beaucoup de choses innovantes, des choses qui fonctionnaient, des choses qui ne fonctionnaient pas.
Comment ça se passe ce concours? Il se passe où ce concours? Et c'est quoi l'ambiance du concours? Qu'est-ce qui s'y passe concrètement?
On est stressé. D'abord, on est très stressé.
Alors, ça se passe où?
À Caen.
À Caen.
Toutes les années, ça change. Du coup, c'est-à-dire que c'est les IUT qui prennent en charge, les écoles qui participent, qui prennent en charge. Et du coup, chaque année, le but, c'est d'essayer de changer de.
Oui, c'est ça. Cette année, nous, ça s'est déroulé à Caen. L'année prochaine, ça s'est déroulé à Caen. Et l'année prochaine, ce sera à l'IUT, même ici à Évreux.
D'accord. Sur, et donc l'ambiance est un peu de stress.
C'est ça. Donc, comme l'a dit Emile, il y a 26 équipes composées. Donc, nous, on est d'un BUT. Il y a aussi des ingénieurs. Donc, c'était leur projet tutoré. Donc, il y a des oraux à passer. Un premier. Ensuite, il y a des dégustations. Ensuite, il y a des présélections. De nouveau des oraux. Et donc, c'est ensuite, après, cet oral final qu'on sait si on est gagnant ou pas.
Voilà. C'était vraiment une partie le matin où tout le monde présentait le produit, donc c'est-à-dire pendant 2 ou 3 heures. Ensuite, il y avait la partie dégustation. Et après, du coup, ces deux parties, il y avait une présélection du coup qui a été faite, où il y a de base 6 produits qui devaient être retenus, il y en a eu 8, et du coup, on était inclus dedans. Et du coup, ces 8 groupes devaient repasser un oral, du coup, de là de 15 minutes à 8 clos avec le jury, où justement, on devait vraiment détailler et nous poser des questions. Et du coup, c'est au terme de cette dernière orale qu'ils ont pu déterminer les prix.
Ça fait quoi quand on gagne quand même? Parce que là, vous avez les résultats sur le moment, j'imagine. Et là, vous êtes lauréat.
Beaucoup de joie.
Beaucoup de bruit.
Beaucoup de bruit, ouais, c'est ouais. Ça fait beaucoup de bruit.
Des sourires sur le visage de notre professeur principal aussi.
Ouais. Il y avait vos camarades aussi qui concouraient, j'imagine, parce que la classe, c'est pas 4 élèves. Il devait avoir 6 groupes de 4, c'est ça? Ou c'est peut-être pour 4 groupes?
On était 28 à peu 28 près, je pense.
D'accord. Et du coup...
On était les seuls de l'IUT à être sélectionnés pour l'après-midi.
D'accord.
Donc, on a une pression en plus, parce qu'on représente...
Ouais, mais un encouragement en plus aussi.
Oui.
Une pression, mais un encouragement.
Oui, c'est ça. Mais, du coup, on représentait vraiment l'IUT. Et bah, du coup, la victoire, ça, je pense, fait plaisir à tout le monde, parce qu'on a même vu les autres, nos camarades de sourire avec notre victoire, parce qu'on représentait quand même l'IUT. Ça reste une fierté pour tout le monde.
Ça reste cool. Je me retourne vers Erel, Lali, Eva. Est-ce que, parce que là ils ont donc en génie bio, ils ont créé un produit avec des contraintes. Gaufrette, c'est fragile, ça doit rester froid et tout ça. Ma question, vous la voyez venir à 10 km, hein, ma question, c'est est-ce que c'est tout à fait le genre de défi que en packaging, parce que eux ils ont le produit mais ils nous le mettent dans une assiette. Si par exemple c'était amené à être commercialisé, transporté ou autre, est-ce que c'est tout à fait le genre de projet sur lequel le packaging pourrait se mobiliser?
Alors, oui, tout à fait, mais on a quand même une petite différence, c'est que nous, ça se mange pas parce qu'on a travaillé sur le vernis, donc...
oui, alors on va revenir sur le concours, je voulais juste faire le lien, en fait. Est-ce que, par exemple, avec un défi comme eux, par exemple, le fameux stupeur givré, c'est le genre de truc où, en packaging, on se mobilise et on trouve une solution, parce que là, il y a de la technique quand même, faut que ça reste froid. Est-ce qu'il y aurait des solutions en packaging? Est-ce que c'est sur le genre de choses que vous travaillez, en général? Pas sur le concours, hein, mais en général, est-ce que c'est le genre de contrainte que vous pouvez avoir?
Bien sûr, on est amené toujours à réfléchir pour répondre à de nouvelles contraintes et à de nouveaux défis. Donc notre travail, il est en permanence, c'est vraiment de réfléchir et de trouver des solutions et de trouver des choses innovantes pour répondre à des défis actuels, clairement.
Ce serait clairement le genre de défi que vous pourriez relever, quoi, en fait. Ça y est, on a des givrés au Calva, comment est-ce qu'on fait pour les transporter, je sais pas, à Marseille, tiens, pour qu'ils découvrent notre région?
Oui, c'est vraiment le genre de défi qu'on pourrait faire nous aussi, à penser à comment les transporter, comment ils seront organisés par exemple dans le camion, comment faire pour que le transport il dégage le moins de CO2 possible, pour avoir quand même une partie écologique, parce que le packaging c'est ça aussi, on travaille beaucoup dans l'écologie.
Donc c'est le genre de truc, tout à fait, c'est le genre de défi. Si au bout d'un moment il marche bien la stupeur givrée, faudra aller voir le packaging pour le truc. J'imagine qu'il y a après des commerciaux qui sauront le vendre, non? À l'IUT, il y a aussi une partie commerce, hein, je crois. En fait, c'est pas mal l'IUT, on conçoit le produit, on sait le packager, et puis on a ceux qui savent le vendre, c'est ça l'idée? On est à 2 doigts, je crois, de créer un truc, là. Le concours en lui-même, justement, sur le BUT Packaging. Alors, vous aussi, Erel, Lali et Eva, vous êtes lauréate également du concours en packaging. Quel était votre projet, justement? Parce que Erel, elle voulait absolument en parler tout de suite, là. Ma transition, elle en voulait pas, hein. Elle a dit, ouais, les transitions, c'est bon. Moi, je vais en parler du projet. C'est quoi votre projet? Sur quoi vous avez travaillé, vous, sur le concours en packaging?
Donc, nous, on a travaillé sur de la recharge de vernis.
De la recharge de vernis.
Oui, tout à fait. En fait, le principe du CNE, c'est de...
CNE.
Oui, le concours national de l'emballage.
Très bien.
Et oui, Conseil national de l'emballage, pardon.
Très bien, oui.
Donc, ils organisent un concours tous les ans pour les étudiants en packaging et tout ce qui se rapproche du packaging, où il faut créer, en fait, un packaging innovant. Donc, on avait 3 thématiques. Nous, on a choisi de travailler sur la thématique de la recharge. Et on s'est penché sur la recharge du vernis parce que toutes les trois, on est très consommatrices de vernis. Et ça nous a permis vraiment d'exploiter toutes les contraintes et tout ce qui fait que le vernis pose problème.
Quel genre de vernis? Le vernis quand j'ai peint mes volets?
Le vernis à ongles, pardon.
Le vernis à ongles, merci. Très bien. Non, mais j'essaie de suivre, hein, en cosmétique.
Oui, c'est ça, coup, tout voilà. À fait.
Donc, le vernis à ongles, une recharge pour pouvoir... j'ai besoin de comprendre. Hein, donc, c'est quoi? C'est quand le flacon est vide, vous avez un système pour le remplir, c'est ça? C'est comment c'est...
En fait, on s'est aperçu que le vernis, c'était un produit qui n'était pas du tout recyclé par les consommateurs. Donc, il y a 87% des consommateurs qui ne recyclent pas leur vernis. Par an, pour vous donner une idée, ça fait environ 9 millions de pots de vernis qui sont jetés et qui ne sont pas recyclés. Et nous, on a voulu vraiment se pencher sur le recyclage pour sauvegarder des matières premières et avoir plus d'écologie. Donc, on a vraiment effectué une recharge pour, quand notre pot de vernis est fini, ne pas devoir tout jeter, mais simplement jeter à recycler, je précise, la recharge et en mettre une nouvelle.
Pourtant, le pot de vernis, normalement, il est en verre. On pourrait le recycler en verre ou pas? Ou il y a d'autres contraintes liées aux produits qui étaient dedans qui empêchent le recyclage?
En fait, le souci, c'est que le vernis, il est 100% rechargeable. Et sauf que, en général, il y a toujours un dépôt qui reste au fond. Donc, la quasi-totalité des consommateurs pensent qu'à cause de ce dépôt, on peut pas le recycler. Et donc, ils le jettent dans la poubelle à ordures ménagères.
Et c'est faux, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. C'est ça, c'est
oui,
faux.
Oui, tout à fait. Du coup, comme je viens de le préciser, le vernis, c'est 100% rechargeable. Recyclable, pardon. Parce que du coup, le verre, c'est vraiment une filière qui est qui est 100% recyclée. Et le pinceau et le petit capuchon du coup qui servent à utiliser le vernis, c'est du plastique qui est recyclable aussi, donc c'est vraiment des idées reçues que nous on aimerait bannir grâce à notre charge.
Alors la recharge, comment ça se passe? Parce que la recharge, faut l'emballer aussi, non? J'imagine que c'est pas quelqu'un qui passe chez nous avec une bouteille de vernis pour remplir les pots.
Non, en fait, pour chaque vernis, en fait, on a une recharge qui est elle en plastique qu'on peut acheter en magasin. Et du coup, sur notre vernis, on va pouvoir retirer la recharge qui est vide, acheter une nouvelle en magasin, la clipser et pouvoir réutiliser le vernis à l'infini.
C'était quelque chose qui n'existait pas, ça? Aucune marque le proposait, système de recharge?
On en a vu nulle part. Et au début, on n'était pas vraiment parti sur ça. Mais en fait, c'est vraiment c'était le plus simple à réaliser parce qu'on avait pensé à une machine en magasin où on mettait notre vernis et ça la rechargeait un peu comme des recharges de parfums qui existent déjà. Mais ça demandait beaucoup, beaucoup de travail et c'est trop compliqué pour nous, notre niveau actuel. Alors que la recharge, du coup, en plastique qu'on met dans le pot de vernis, c'était beaucoup plus simple.
Sur le cahier des charges, les essais, la réflexion, la rectification, ça vous a pris quoi comme temps?
Comme les génies biologiques, on était à peu près sur 4 mois de recherche. On a eu les sujets en début d'année, donc vers septembre. Et c'est des idées qui évoluent sans cesse, en fait. On n'a pas trouvé notre solution dès le départ. C'est pas en 2 semaines où on trouve notre solution. C'est vraiment passé par des dizaines et des dizaines d'étapes où on va se remettre en question en permanence pour affiner notre projet et arriver à un résultat concluant.
Il y a eu quoi comme genre de raté? On veut les anecdotes, hein. C'est bon, maintenant vous êtes lauréate, on sait que vous êtes gagnante. Hein. Mais il y a eu quoi comme genre de raté? Quels sont sur le parcours, quels sont les moments où on va douter parce qu'on a raté, quoi?
Nous, on a eu beaucoup de mal avec le système de fermeture de la recharge. Parce que la recharge, pour qu'elle puisse être commercialisée, il faut qu'elle soit inutilisable sans l'emballage primaire. C'est-à-dire que c'est l'emballage qu'on va garder et qu'on va donc recharger. Et ça nous a pris beaucoup de temps. Parce que du coup, il faut que le vernis, dans sa recharge, soit totalement hermétique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Et on a réussi à régler ce souci.
Et avant ça, on a eu, comme disait Lali, la première petite déception quand on a commencé à travailler sur une machine qui permettait de recharger. En fait, au milieu du parcours, on a eu un point intermédiaire, on va dire, avec nos professeurs. Et on est ressorti un peu... dégoûté, quoi, parce qu'on s'est dit mince, on est passé à côté de notre sujet principal parce que la machine fonctionnait pas du tout et on n'a pas lâché l'affaire et c'est comme ça qu'on a fait germer notre idée et on a pu avoir un résultat à la fin très très satisfaisant.
Du coup, depuis, des ongles impeccables.
Exactement.
C'est un truc que vous utilisez pour le coup, parce qu'on parle du concours, on parle tout ça. J'ai charrié un petit peu tout à l'heure les génies biologiques autour de comment ils avaient fait plein d'essais pour boire plein de coups. Hein. On le sait bien. Pour le coup, vous, c'est quelque chose que... alors, j'imagine à petite échelle, parce que vous avez fabriqué quand même derrière. C'est un truc que vous utilisez là, alors au moins à échelle de vous ou pas, ou vous avez essayé à titre personnel?
Bah, pas vraiment, parce qu'on a fait un prototype 3D, mais du coup, en fait, le seul problème de notre innovation, c'est qu'elle est... faut encore qu'on la change, parce qu'elle n'est pas encore industrialisable. En fait, on peut pas encore la produire totalement, en fait. Parce qu'il y a des trucs, il y a certains trucs qui posent problème.
Comme quoi, par exemple?
Comme le pot en verre, c'est un peu compliqué à faire, mais après le reste.
C'est le pot initial en fait qui pose problème, c'est ça?
C'est ça. En fait, on a dans notre solution, on a comme on le disait tout à l'heure plusieurs parties et le packaging primaire, donc celui qu'on va garder toute notre vie, pour permettre d'insérer la recharge, on a pensé à un petit système de clip. Et en fait, c'est pas que c'est pas industrialisable, c'est que pour le moment, ça coûterait trop cher de le faire. Et donc, si on veut l'industrialiser, il faut qu'on modifie quelques paramètres. Donc, c'est industrialisable, mais ça demanderait beaucoup trop d'argent pour le moment.
Très bien, je vous propose une pause musicale et puis on revient avec vous parce que vous l'avez compris en écoutant, c'est passionnant. On va continuer à échanger avec les étudiants de l'IUT d'Evreux. Et puis on va retrouver aussi, juste après la pause musicale, les astuces étudiantes de Stella. Allez, une petite pause musicale et on se retrouve après. Avec The Goat Is Going It. C'est une reprise d'un morceau de 1936. C'était les fameux Américains qui faisaient de la musique avec la planche à laver. La planche à laver, c'est comme ça qu'on disait. C'était le plaisir de réécouter quelque chose d'ancien, mais avec un bon son.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez!
Et pour rester dans notre ambiance étudiante, on parle depuis tout à l'heure avec les étudiants de l'IUT d'Evreux. Tout à l'heure, je faisais mon malin aussi en disant « Attention, c'est les déclarations d'impôts et tout ». Les étudiants me regardaient, je disais bon, pas très important, mais ça reste pas moins la fin de l'année scolaire. Et Stella m'a dit, je veux absolument parler d'un truc qui est hyper important. Stella, de quoi s'agit-il?
Absolument, j'y sais. Aujourd'hui, je souhaite parler du CROUS, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires. Alors, je pense que les étudiants qui se trouvent sur le plateau avec nous savent de quoi je vais parler un peu, mais j'y sais, toi, est-ce que tu connais?
Absolument pas, du tout, du tout. Je découvre, mais je veux bien que tu nous expliques quand même.
En quelques mots, le CROUS, c'est un organisme public très important qui améliore la vie quotidienne des étudiants à travers diverses aides et services comme les bourses sur critères sociaux, les logements sur les campus universitaires, les restos U ou encore des activités.
Comment faut faire pour bénéficier de ces bourses, Stella?
Alors tout d'abord, faut être inscrit dans un établissement d'études supérieures, ce qui n'est pas le cas pour toi, JC, désolé.
Mais c'est pas études supérieures la radio là? C'est très bien, non?
Non.
Non, ça marche pas.
Non, ça fonctionne pas, désolé.
Bon, tant pis.
Ensuite, il faut faire donc une demande de dossier social étudiant qu'on appelle aussi le DSE sur le site messervices.etudiant.gouv.fr où on va pouvoir suivre la prise en charge de notre dossier. Cependant, ces bourses sont attribuées aux étudiants en fonction des revenus des parents, de l'éloignement entre leur lieu d'études et le domicile familial, de la composition de la fratrie et des études suivies, et d'autres caractéristiques, évidemment.
Alors, merci Stella, je vois bien comment ça se goupille. Bon, même si c'est trop tard pour moi, j'ai l'impression, c'est
ouais,
ça?
Oui, un peu, c'est ça.
Bon, tant pis. Je vois bien comment est-ce qu'on obtient les bourses, les critères sociaux, toutes ces questions-là. Comment on va étudier, même. Mais comment on fait pour se loger quand on est étudiant?
Alors oui, tout à fait, j'y sais. Et pour cela, en fait, pour les logements, je suis partie à la rencontre d'Andrea, étudiant en BUT technique de commercialisation, qui bénéficie d'un logement au CROUS, et il va nous faire part de son expérience.
Comment as-tu trouvé ton logement avec le CROUS?
Je me suis rendu sur le site internet messervicesetudiants.gouv, et puis ensuite vous pourrez retrouver la rubrique créer son logement, et après vous pourrez suivre votre dossier tout simplement.
Comment se passe la vie en résidence universitaire?
C'est génial. Après, c'est sûr qu'au début, c'est beaucoup d'appréhension, mais finalement, si on sort un petit peu le soir et qu'on descend dans les salles communes, on se fait très rapidement des amis, parce que tout le monde est comme nous, finalement. Et après, c'est beaucoup de rigolade.
Quels sont les avantages à vivre dans un logement CROUS?
Alors, il y en a beaucoup, donc je vais les énumérer. Il y a forcément la restauration, puisque on peut directement manger sur place, on n'a pas besoin de se faire à manger. Il y a le fait de payer avec Easly, donc pas besoin d'avoir sa carte bancaire, on peut directement recharger via l'application pour nos parents, par exemple. On a la proximité, moi j'étais à seulement 50 mètres de mon IUT. On va également avoir la partie lingerie, donc tout le nécessaire pour pouvoir faire son linge. Ensuite, moi je sais qu'on avait un local à vélo, ou pouvoir mettre des trottinettes aussi électriques. On avait un parking collectif fermé. Ensuite, on avait un gardien, tout simplement, donc qui est là toute la nuit. Si on a un besoin, si on est malade ou quoi que ce soit, qu'on se sent pas bien, on peut faire appel à lui. On avait aussi la location de jeux, que ce soit des jeux de société ou même des raquettes de ping-pong ou des balles de baby-foot. En plus de ça, c'est gratuit, donc c'est top. On a une salle commune, forcément. On a également un espace de coworking tous ensemble pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est top parce qu'on a généralement aussi des bulles pour pouvoir un peu s'enfermer et s'isoler si on a besoin de faire un exposé ou quoi, ou de s'enregistrer. On a également un terrain de sport et dans les studios, après pour parler un petit peu des studios, c'est un studio qui est meublé, donc tout complet. Dedans, on va avoir le frigo, plaque de cuisson, un grand bureau et beaucoup de rangements. Et pour ceux qui ont des chambres, pas d'inquiétude, il y a des espaces collectifs pour pouvoir faire à manger, c'est par étage. Et puis, c'est bien entretenu puisque c'est les étudiants eux-mêmes qui nettoient ces parties communes. Et de toute manière, le CROUS veille à ce que ce soit entretenu.
Alors je remercie Andrea, étudiant bénéficiant d'un logement au CROUS, pour son témoignage. Et donc on va finir avec deux, trois petites infos pour tous les étudiants à retenir, deux dates importantes. Donc vous avez déjà jusqu'au vendredi 31 mai, c'est-à-dire demain, pour faire votre demande de bourse sur critères sociaux. Et la dernière petite info, c'est donc vous avez jusqu'au 10 juin pour faire votre demande de logement pour le CROUS. Voilà.
Eh ben merci pour toutes ces astuces,
Stella. Merci à toi, JC.
Vous étiez au courant de tout ça ou pas, les étudiants? Ouais. Enfin, Amaury, il dit, je m'en fous, c'est chez les parents, donc je fais ma demande quand je veux. C'est ça l'idée?
C'est ça.
Rapprochez-vous des micros, vous avez tous pris du recul pendant la pause musicale, rapprochez-vous donc. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ces questions en packaging, mais on a toujours les génies bio avec nous, tu vois, je vais rappeler. On a Nicolas, Amaury, Émile, Jeanne sur le BUT Génie Biologique, avec la spécialité...
Sciences de l'aliment et biotechnologie.
Ouais, voilà, je vous laisse la spécialité parce que ça devient compliqué au bout d'un moment. Hein. Et puis, on a RL, Lali et Eva qui sont sur un BUT packaging. On parlait tout à l'heure des contraintes écologiques, techniques, des matières. Finalement, c'est hyper scientifique aussi ce packaging parce que j'imagine qu'il y a des questions de comment on va optimiser le transport, vous l'évoquiez tout à l'heure, aussi bien dans la taille de l'emballage, mais peut-être aussi dans le poids et dans les impacts. Comment ça se passe? Comment on réfléchit à un emballage?
Oui, tout à fait. On a vraiment des dizaines de contraintes écologiques à respecter. Faut savoir que le packaging, c'est...
On aurait pu dire des opportunités écologiques à respecter.
Oui, également, les enjeux actuels au niveau de l'écologie ne cessent d'évoluer et on est sans arrêt en train de se re-questionner sur nos emballages, les emballages qui nous entourent. C'est pour ça que c'est un domaine très intéressant qui ne cesse d'évoluer. Et on est soumis à beaucoup de normes ou de choses comme ça. Et l'important dans l'emballage, c'est d'arriver à faire des choses plus éco-responsables. Et c'était l'une de nos contraintes quand on a participé au projet, à ce concours.
Il y a des choses qu'on fait plus du tout comme on faisait il y a encore 10 ans. Et je sais pas, des matériaux en vogue, des choses comme ça. Il y a des petites astuces modernes, on va dire.
Oui et non. Tout n'est pas bon à acheter. On a beaucoup l'idée de, par exemple, bannir le plastique. C'est vraiment une idée que le plastique, c'est mauvais, ça pollue. Et finalement, il faut arriver à faire un petit peu une balance là-dessus parce que le plastique, par exemple, c'est quelque chose qu'on a tendance à boycotter alors qu'on a des filières de recyclage qui sont très, très bonnes. Et finalement, le principal enjeu dans l'emballage, c'est surtout de changer les habitudes des consommateurs au niveau des consignes de tri.
Oui, parce que c'est ça, une fois que j'ai mon packaging à la maison, on a beau dire qu'il est recyclable à 100%, à 300%, même si on veut, si je le mets dans mes ordures ménagères, de toute façon, il sera pas recyclé.
Exactement.
Y a un travail aussi en packaging pour inciter les consommateurs à recycler ou pas? Enfin, est-ce que le packaging intègre cette notion de recyclage, enfin d'incitation au recyclage?
En fait, nous, sur tous les packaging sur lesquels on va travailler, on va devoir mettre les consignes de tri, donc parce que ça, c'est la loi. Et après, on peut aussi ajouter, et ça, c'est au bon vouloir du client et de ce que nous, on peut faire, ajouter toutes les informations. Par exemple, hier, on a pu voir un emballage tout nouveau sur le commerce avec, en fait, on va séparer la partie plastique de la partie carton. Et en fait, ils ont mis une petite consigne de comment faire pour séparer ces deux parties, ce qui facilite, en fait, pour le consommateur... le recyclage de chacun des matériaux.
Sur, c'est des questions. Est-ce que par exemple il y a de la recherche? Oui, puis on va en parler dans un petit instant. Mais est-ce qu'il y a cette notion, je sais pas, de recherche scientifique même pour vous les étudiants? Est-ce qu'au bout d'un moment il y a cette notion un peu expérimentale dans votre cursus?
Bah oui, parce qu'on a déjà beaucoup travaillé sur l'éco-conception, donc apprendre à concevoir de la manière la plus écologique possible en utilisant le moins de matériaux possible et avec des matériaux justement qui vont être plus écologiques pour l'environnement.
On essaie de jeter les trucs par la fenêtre pour voir si ça résiste ou pas. Moi, c'est cette image que j'ai là dans le packaging. Hein.
Non, on évite quand même. Mais par contre, on fait beaucoup de science, même si on ne penserait pas, parce que souvent, en packaging, on se dit bon, c'est plutôt de la conception finalement. Mais en fait, on a une grosse partie de science où on va vraiment venir tester les matériaux notamment. Donc, on a des TP.
Travaux pratiques.
C'est exactement ça, des travaux pratiques où vraiment on va venir tester et ça... Pour le coup, on a vraiment des choses très scientifiques. On va appliquer des formules, on va tester nos emballages sur des machines. On a vraiment un espèce de laboratoire, on va dire, dans lequel on fait nos TP et qui nous permettent vraiment d'aborder l'aspect scientifique.
Ah ouais, moi, bêtement, là, je me suis dit, ils doivent bien se marrer en packaging. Ils montent au dernier étage et puis ils jettent les cartons pour essayer. En fait, non, il y a des machines. C'est ça. Si, vous le faites quand même, jeter par la fenêtre.
On le fait quand même juste pour le fun.
Ah ben ouais, je sais pas. C'est quoi l'intérêt du packaging si on jette pas les trucs par la fenêtre pour vérifier quand même? Je sais pas, j'ai le fameux exemple. J'avais l'occasion de voir ça à l'IUT, d'ailleurs, à l'occasion d'une fête de la science. Ça emballait des œufs avec du paille. Et ça, c'était le packaging qu'ils faisaient. C'est un grand classique, c'est ça?
Oui, c'est vraiment une activité qu'on aime bien proposer pour la découverte. Ça va être réussir à trouver une solution de calage. Donc le calage, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur d'un colis pour vraiment caler et protéger au maximum notre produit. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très ludique, même pour les enfants, de venir, de faire sa petite composition, de jeter son carton pour voir si l'œuf est cassé ou pas.
Ouais, pas que les enfants, je l'avais fait, hein, je m'étais bien amusé. Hein. Donc voilà, c'est sur ces éléments-là. Quand on gagne un concours, et là je m'adresse vraiment à tout le monde, aussi bien les BUT génie biologique que le BUT packaging, quand on gagne un concours comme ça, hormis la fierté sur le moment, ça pèse dans le parcours d'étudiant ou pas, ou dans le parcours professionnel, ou dans le... C'est en haut du CV, comment ça se passe? Ça vaut un truc au-delà de la fierté?
Oui, bah en tout cas, c'est apparaître sur le CV.
Ouais, ça c'est faut le faut bien le marquer, c'est ça.
C'est bah forcément c'est vraiment une plus-value pour nous de gagner ce genre de concours parce que ça montre qu'on a vraiment un esprit critique et qu'on est à même de proposer des solutions innovantes et les employeurs forcément quelqu'un qui va réfléchir de manière poussée pour proposer des solutions innovantes, c'est forcément des profils qui vont être recherchés et ça permet de vraiment mettre en pratique nos études et de montrer notre savoir, donc forcément c'est une plus-value.
Sur la après cette année, vous êtes en combien, dernière année, enfin deuxième année, troisième, c'est en trois ans,
deuxième,
c'est ça?
Ouais.
C'est en trois ans, donc l'année prochaine, vous aussi en génie biologique aussi, c'est-à-dire que bon, quoi qu'il arrive, il y a la troisième année, c'est ça pour tout le monde?
Oui.
Je vois du doute dans certains yeux. Il y a la troisième année pour tout le monde.
Oui, oui.
Après, on a quand même sacrifié pas mal d'heures de cours pour faire avancer le projet.
Donc... Ah, c'est peut-être la deuxième année l'année prochaine, c'est ouais, ça?
C'est ça, peut-être un retour en deuxième année.
C'était trop bien cette année avec le concours, je la refais.
Oui, c'est ça.
Je la perfectionne cette année. Donc, il y a la troisième année, quoi qu'il arrive. Il y a des concours en troisième année aussi?
Non, nous, il n'y a plus de concours. C'est surtout des projets à mener comme ça en groupe.
Il y a déjà des idées. Ah, je vois Julien qui est enseignant à l'UT. Il redonne les infos. Il redonne les infos aux élèves. Alors du coup,
Nous en troisième année déjà on pour notre
sur le packaging,
c'est une année qu'on peut effectuer en alternance. Donc on a vraiment cet aspect professionnel et quand on sera en période de cours, on va faire des projets avec des industriels.
Et vous sur le génie bio, c'est pareil ou pas? On peut faire en alternance la troisième année ou pas?
Oui, c'est possible. On peut le faire de manière normale, c'est-à-dire suivre des cours et effectuer un stage, ou le faire en alternance.
D'accord. Il y en a qui vont prendre l'alternance ou pas? Enfin, qui aimeraient prendre l'alternance en fait?
Oui.
Oui.
C'est la meilleure option, c'est ça?
Ah, c'est.
Peut-être pas la meilleure, excuse-moi. Peut-être pas la meilleure, mais en tout cas celle qui est la plus convoitée par les étudiants.
D'accord.
Forcément, bon, déjà, on a un petit salaire, donc ça fait toujours plaisir. Et puis c'est surtout que vraiment, on a la possibilité de mettre en application nos compétences dans le domaine professionnel. C'est vrai que la formation, ça nous forme, mais le meilleur exercice, ça reste le terrain.
Et ça nous fait des expériences aussi pour les années qui suivront, pour lorsqu'on chargera un travail. Ça nous fera plus d'expériences que ceux qui n'ont pas réalisé en alternance.
Après un BUT, c'est quoi? C'est le monde du travail ou il y a des suites d'étudiants à avoir ou...
Généralement, c'est insertion professionnelle. Mais certains peuvent faire des écoles d'ingénieurs.
D'accord, oui, après c'est école d'ingénieurs. Pour le packaging aussi, c'est ça?
Ouais, pour le packaging, on peut soit faire un master, soit une école d'ingénieur. Et ça dépend. Il y en a beaucoup. Enfin, c'est plutôt moitié-moitié. Il y en a qui continuent et il y en a qui s'arrêtent après pour commencer à rentrer dans le milieu du travail.
Ok, je vous propose une dernière pause musicale et on revient juste après. Je vais inviter Julien à se rapprocher de nous pour tout à l'heure. Julien qui est enseignant-chercheur. Et puis, on va parler un petit peu plus largement de tout ça. Pause musicale. Je suis en train de chercher. Bah oui, si, Johnny Osborne qui passe demain au Cube à Évreux. Un papy du reggae, comme on dit. Et il sera sur Évreux demain.
When I know that I might catch you kiss somebody with a cold last night? That where you get it from? Oh gosh, I never ever gonna kiss you again. I woulda kiss you by your hand. Oh gosh, me say you kiss somebody with a cold last night? That where you get it from? Oh God, I never ever gonna kiss you again. I woulda kiss you by your hand. Oh God. To take a kiss from you, that's true. Oh, when I know that I might catch a flow, that's true. I won't be a fool to take a kiss from you, that's true. Oh, when I know that I might catch a flow, that's true. They say you kiss somebody with a cold last night. You get it from, oh God, I never ever gonna kiss you again. I woulda kiss you by your hand, my gosh. I said I kiss somebody with a cold last night. I where you get it from, oh gosh, I never ever gonna kiss you again. I woulda kiss you by your hand, oh God. Take a kiss from you, that's true. Oh, when I know, oh, what a kiss can do, that's true. I won't be a fool to take a kiss from you, that's true. Oh, when I know just what a kiss can do, not true. You kiss somebody with a cold last night. That where you get it from? Oh God, I never ever gonna kiss you again. I woulda kiss you by your hand. Oh God, me say you kiss somebody with a cold last night. That where you get it from? Oh God, I never ever gonna kiss you again. I woulda kiss you by your hand. Oh God. Moon a shine down on a Tibet road. Old frog a think him a toad. Moon a shine down on a Tibet road. Old frog a think him a toad. Moon a shine on a Tibet road. Old frog a think him a ima. Moon a shine on a Tibet road. Old frog a think him a toad.
Johnny Osborne, que vous retrouverez au Cube demain soir.
Le bien reste à venir. Le bien reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HBR. De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Et nous sommes ce matin toujours avec les étudiants de l'IUT d'Évreux et plus précisément le BUT Génie Biologique qui nous ont étonnés avec la stupeur givrée qui donne envie. A priori, ils gardent ça la recette ultra secrète parce qu'on n'y a pas goûté à cette stupeur givrée. Et puis, ils sont en train de nous laisser entendre que c'est pas dit qu'on en retrouve. Et puis, nous sommes également avec le BUT Packaging sur lequel nous avons échangé. Ils sont tous les deux lauréats de concours. Voilà. Il y a aussi la mesure physique qui a été le lauréat du concours qui était face à eux. C'est-à-dire que l'IUT d'Évreux a remporté 3 concours, ce qui est plutôt pas mal. Nous sommes également avec Julien qui est enseignant et chercheur, enseignant spécifiquement en packaging, c'est ça ? Je dis pas de bêtises ?
Alors moi j'enchaîne sur tout ce qui va être modification de matériaux en fait.
Donc, d'accord.
Côté chimie plutôt.
Plutôt côté côté chimie. 3 prix sur l'IUT d'Évreux, c'est quand même assez exceptionnel, non ? C'est une bonne année ?
Oui, puis on forme bien nos étudiants, donc forcément ça se passe bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des concours qui sont nationaux et régionaux, donc ça prouve qu'ils ont des compétences qui peuvent valoriser et qui sont très compétitifs par rapport aux autres formations.
On est fiers aussi quand on est enseignant et puis que les étudiants qu'on accompagne, alors globalement l'équipe pédagogique bien entendu, mais il y a une fierté aussi chez l'enseignant d'avoir 3 prix, 3 groupes d'étudiants lauréats.
Oui, vraiment, c'est vraiment valorisant pour nous, ça montre que ils se plaisent dans cette formation, qu'ils ont envie de s'investir dans ce qu'on fait, dans ce qu'ils font, et qu'ils arrivent à porter ces couleurs-là, les couleurs de l'IUT et puis de la ville au sens large, donc oui, c'est bien.
Puis ils en parlent bien, hein, pour le coup. Enfin là, depuis une heure, c'est passionnant finalement, tout aussi bien le process de fabrication, de réflexion et toutes les informations qu'il y a autour, quoi. Tu es enseignant, chercheur également. Et ça, dans le grand public, on sait un peu moins bien que sur l'IUT, il y a de la recherche. Il y a plusieurs labos de recherche. Il y en a combien d'ailleurs spécifiquement ?
Alors en fait, il y a 4 labos de recherche sur l'IUT d'Évreux. Il y en a 3 en sciences et 1 en tertiaire. Donc ceux en sciences, ils sont plutôt axés sur la microbiologie pour celui qui va correspondre au département de génie biologique. On va avoir pour mesures physiques un laboratoire qui va plus être axé sur la chimie, plutôt dédié aux analyses pour l'environnement. Donc c'est dans ce labo-là où moi je suis. Et il y a aussi un autre labo qui est associé à mesures physiques et qui correspond plutôt à tout ce qui va être lié aux biomatériaux. Donc à la recherche sur comment développer des nouvelles prothèses. Et
sur celui sur le tertiaire ?
Et celui sur le tertiaire, c'est le NIMEC, et donc qui est en lien avec, plutôt avec les nouvelles stratégies marketing et de développement commercial.
Alors, la recherche, c'est quoi précisément ? Parce qu'on imagine peut-être dans l'inconscient collectif, la recherche, on va chercher un vaccin, on va chercher un truc qui va faire presque objet de publications internationales. C'est ça aussi qui se passe sur l'IUT dans les recherches. C'est des recherches pour publication également, pour appuyer d'autres recherches. Comment ça se passe ?
Alors, au niveau universitaire, oui, nos recherches doivent être valorisées au niveau international. Donc, c'est souvent des projets qui sont en partenariat avec d'autres laboratoires européens ou internationaux. Et on va valoriser les résultats obtenus, soit par des brevets qui vont permettre de protéger la propriété intellectuelle pour ensuite vendre le savoir-faire. Donc, il y a des entreprises comme ça qui peuvent se monter en aval de ces développements en recherche publique. Et effectivement, on va valoriser aussi au travers de conférences internationales ou de publications dans des journaux Impact Factor.
Pour qu'on se rende un petit peu compte sur l'IUT d'Évreux, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on a découvert, sur quoi on travaille spécifiquement, quels sont un peu les faits d'armes, parce que les étudiants, ils remportent les concours, mais les enseignants-chercheurs, quelle est un peu la fierté aussi des labos de recherche?
La fierté, c'est de pouvoir justement valoriser ces travaux dans des journaux où on sait que tous nos pairs vont pouvoir les lire. Donc ça, c'est quand même très valorisant pour nous. Le brevet et savoir qu'un professionnel, un industriel va avoir envie d'être prêt à dépenser des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir l'acheter, prouve que l'innovation est là et que peut-être demain servira pour le grand public. Donc on va travailler selon les laboratoires. Si on prend les laboratoires sur les biomatériaux, ils vont travailler sur les nouvelles prothèses pour travailler sur les développements pour les nerfs sur les phases. Donc comment utiliser les impressions 3D pour pouvoir développer des nouvelles technologies. On va travailler sur comment dépolluer des sols et pouvoir réutiliser les sols pour ensuite pouvoir habiter dessus, etc.
Donc ce sont des recherches qui alimentent d'autres recherches, c'est également des interactions entre les labos de recherche,
oui.
Comme tu le disais. Et puis c'est le propre de la recherche, c'est en fait une recherche, une publication qui alimente la recherche d'après, la suivante, et puis et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Sur la recherche, on s'appuie toujours des recherches d'avant.
Oui, tout à fait. On a un savoir-faire qu'on va développer, une expertise qu'on va pouvoir apporter, et c'est là où on va pouvoir développer des collaborations en montrant que nous, on sait faire des choses très particulières et les autres laboratoires vont venir chercher ce savoir-faire. Et ensuite, c'est en interaction qu'on arrive à développer des choses qui sont vraiment innovantes.
Dans les 30 secondes qui nous restent, on a parlé pas mal de l'IUT. Est-ce qu'il y a des conditions d'entrée à l'IUT pour un BUT, pour divers diplômes? Qu'on y rentre comment? Il suffit de sonner à la porte?
Alors non, c'est une filière sélective sur les 6 spécialités de l'IUT. Il faut avoir fait une formation sur deux terminales générales ou technologiques. Après, ça va dépendre du type de spécialité qui va correspondre pour savoir quelle formation est la plus adaptée. Mais le mieux, c'est de venir aux portes ouvertes.
Et ben voilà, c'est ça. C'est quand?
Ce sera au mois de novembre, les prochaines.
Les prochaines, au mois de novembre. Et puis, comme Céla le disait, pour les logements, c'est maintenant. Pour l'organisation, c'est maintenant. Est-ce que c'est maintenant qu'on prépare son année après le bac, quand on a le bac? C'est peut-être déjà un peu cuit. C'est qui pour l'IUT?
C'est déjà terminé puisque Parcoursup et FIA va ouvrir, va faire les appels bientôt.
Merci beaucoup à vous d'être passé par nos micros. C'était l'IUT d'Evreux avec le génie biologique et puis le packaging. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cools.